Dans le dernier épisode de Kernel Panic, on avait tressé des lauriers autour du Mac Studio, et il faut bien dire que le nouvel ordinateur d'Apple a de quoi impressionner. C'est moins le cas des autres nouveautés annoncées début mars par le constructeur. Car, en dehors du Mac Studio et du Studio Display, Apple a aussi lancé un nouveau smartphone et une nouvelle tablette. Ne faites pas semblant d'avoir oublié, s'il vous plaît. Mais c'est vrai que ces deux produits ont été complètement éclipsés par l'arrivée du nouveau Mac. Faut-il pour autant glisser l'iPhone SE et l'iPad Air sous le tapis ? Les rayer de notre existence comme de vulgaires produits Samsung ? Ah ah, c'était bien mal nous connaître. Bonjour à tous et bienvenue dans Kernel Panic, le podcast du club IGN. Oui, nous allons parler aujourd'hui, non pas de l'iPhone 13 vert parce que ça n'intéresse personne, mais du nouvel iPhone SE et de l'iPad Air 5 avec sa puce M1. Des produits pas très intéressants, détrompez-vous. Pour ce nouvel épisode de Kernel Panic, j'ai invité les testeurs de ces deux appareils, à commencer par Félix Catafesta, qui s'est chargé de l'iPad Air. Salut Félix.
Salut.
J'ai aussi à mes côtés Stéphane Moussy, qui adore les petits produits, mais bizarrement, il n'a pas été emballé par l'iPhone SE. Il va tout nous dire aujourd'hui à propos du nouveau smartphone. Salut Stéphane.
Salut Mickaël, salut à tous.
Alors avant de commencer, je voulais vous demander à tous les deux si Apple était quand même parvenu à vous surprendre avec l'iPhone SE ou l'iPad Air, pour une fonction ou pour autre chose. Félix ?
Moi c'est plus l'iPad Air qui m'a surpris du coup, parce que j'ai jamais testé ce modèle d'iPad. Donc j'avais testé un peu plus tôt l'iPad d'entrée de gamme, donc j'avais déjà trouvé sympa, mais c'est vrai que l'iPad Air c'était une première. Donc c'est un iPad qui est chouette, qui a un bon design, tout ça. La puce M1, forcément ça surprend dans un iPad comme ça, de milieu de gamme. Et niveau fonction, moi ce qui m'a vraiment bien plu, donc comme je le disais dans le test, c'est la fonction commande universelle, que je trouve vraiment très très chouette, qui donne un nouveau sens à l'iPad, je trouve, comme tablette d'appoint pour la productivité, tout ça. Je trouve que c'est beaucoup plus pertinent que Sidecar, par exemple, qui, sur mon Mac, qui plante une fois sur deux. Ouais. Donc mais bon, c'est pas une exclusivité de cet iPad Air.
Non. Stéphane, quelque chose qui t'a étonné dans un bon sens ou dans un mauvais sens sur l'iPhone SE ?
C'est la capacité d'Apple à recycler encore le même design. J'attaque direct. Hein.
Oui, bah oui.
Non mais ça fait des années quand même qu'on a ce design depuis l'iPhone 6. Ouais. Là, je pense que le temps était venu de passer un peu à autre chose, parce que l'iPhone 10 qui a inauguré les iPhones tout écran a été lancé en 2007, donc ça fait 5 ans. Je pense qu'on a un peu soupé de ce vieux design. Faut quand même dire que Apple est le seul fabricant à faire encore un design comme ça, avec des grosses bordures et puis un bouton en bas de l'écran. Même j'ai regardé, j'ai vérifié, même les Wiko à 100€, ils ont l'air un peu plus modernes. Alors après c'est pas le même niveau de finition, hein, oui, mais il y a quand même des efforts à faire sur le ratio occupation de l'écran avec la face avant, quoi. Et bon, on en parlera plus tard.
Bien, merci pour ces réponses. On va y revenir tout au long de cet épisode, mais j'avais envie de demander tout de suite à Félix si Apple avait eu raison de caser une puce M1 dans l'iPad Air, ou est-ce que c'est simplement une puce surdimensionnée pour la tablette ?
Moi je trouve ça assez surprenant de la part d'Apple, parce que je m'attendais à un line-up plus conventionnel. Je m'attendais à ce qu'ils gardent leurs puces M1, M2, etc., les puces de Mac pour les iPad Pro, qui continuent de mettre les puces d'iPhone, des derniers iPhone, sur les iPad Air, et qui continuent de recycler un peu les vieilles puces sur les iPad classiques. Mmh. Mais bon, après, on va pas cracher sur un gain de puissance. C'est toujours cool de savoir qu'on a la puce M1 qu'on a aussi sur son MacBook, sur son iMac, dans un iPad. Donc ça sera un bon gros bonus pour la longévité. Après, faut pas s'attendre à ce que ça change l'utilisation d'iPadOS au quotidien, parce que ça reste quand même un OS que je trouve assez limité pour du travail professionnel et quand on veut en faire une machine principale.
On est d'accord, c'est la même puce que sur les Mac M1 et que sur l'iPad Pro. Du coup, au niveau du prix, l'iPad Air devient le point d'entrée de la gamme M1. Alors après, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on peut se demander si c'était bien pertinent avec un iPadOS qui bride quand même pas mal les possibilités de la tablette. Mais d'un autre côté, c'est aussi l'assurance que cet iPad Air va durer des années et des années.
C'est sûr que ça, l'iPad va pas être mis au placard. Tout de suite, ouais.
Ouais, parce que c'est vraiment c'est un peu impensif maintenant avec tous les ans ou toutes les années et demie on dit ça des iPads, mais bon là ça se confirme encore encore une fois avec cet iPad Air.
C'est ça.
Stéphane, est-ce que l'iPad Air ne vient pas tout simplement de tuer entre guillemets l'iPad Pro de 11 pouces, parce que les deux tablettes elles sont finalement assez proches, mais il y a une vraie différence de prix qui peut quand même se justifier avec quelques fonctions exclusives à la tablette Pro.
C'est vrai que l'écart entre les deux tablettes se resserre et s'agrandit au gré des mises à jour de chaque gamme. Ouais. Là, il vient de se resserrer avec l'iPad Air 5 qui adopte donc la même puce M1 que l'iPad Pro et puis aussi la 5G d'option. Mais en fait, j'étais passé à côté d'un truc, c'était que en fait la différence de prix, elle s'est réduite entre l'iPad Air et l'iPad Pro, puisque l'iPad Air 5, il coûte 30€ de plus que l'iPad Air 4, ouais. C'est-à-dire 699€. Donc ça fait que l'iPad Air, si tu veux un iPad Air, tu dois dépenser plus qu'avant, et même beaucoup plus qu'avant, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais quand l'iPad Air n'avait pas encore ce design inauguré par l'iPad Pro, il coûtait 569€.
Oui.
Donc ça fait toujours plus cher pour avoir un iPad Air. Et bon, en ce qui concerne l'iPad Pro 11 pouces, il garde quelques avantages. Il y a le Thunderbolt, mais bon, ça c'est vraiment la niche de chez niche, puisque on peut pas vraiment en profiter avec iPadOS. Il y a les haut-parleurs en plus, il en a 4. Ça, je trouve ça quand même vraiment super bien sur l'iPad Pro.
Ouais.
Et puis surtout, c'est l'écran ProMotion qui est super agréable une fois qu'on y a goûté. Il y a quelque chose d'autre que j'oublie. Ah oui, c'est l'appareil photo.
Ah oui.
L'appareil photo avec beaucoup plus évolué sur iPad Pro, mais bon, je me demande si beaucoup de gens prennent énormément de photos avec leur iPad.
Ouais.
Donc voilà, l'écart s'est resserré. Mais bon, avec la prochaine gamme d'iPad Pro, on peut penser qu'il va encore s'agrandir un peu. Ce qui serait bien sur l'iPad Pro 11 pouces, maintenant, c'est l'écran mini LED. Comme ouais. L'iPad Pro 12,9 pouces, qui fait aussi une belle différence par rapport à une dalle LCD classique.
Ouais. Félix, qu'est-ce que tu fais avec l'iPad Air en fait ? C'est quoi ton utilisation, tes utilisations principales ?
Sur les iPads, pour moi, c'est plutôt du divertissement. C'est vraiment regarder des vidéos, aller sur Safari, regarder des sites, ce genre de trucs.
Ouais.
Après, c'est vrai qu'avec l'Apple Pencil 2, c'est vraiment pratique, je trouve, pour dessiner sur des PDF. Enfin, je m'en servais beaucoup en cours, par exemple, bon, sur un iPad Pro, mais sur l'iPad Air, ça reste encore super. C'est vrai que c'est un accessoire qui est vraiment très très pratique. Et donc voilà, c'est mon utilisation principale. Ouais.
On va revenir sur les différentes nouveautés de l'iPad Air avec toi, Félix, parce que on a parlé de la puce M1, donc, mais il y a un autre changement qui sera peut-être plus immédiatement visible aux yeux des utilisateurs, c'est la fonction de cadre centré. L'iPad Air était la dernière tablette à ne pas avoir cette fonction. Est-ce que tu as pu tester et est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ?
Alors oui, je l'ai testé évidemment. Donc cadre centré, c'est une fonction donc qui cadre l'utilisateur pendant les visios.
Ouais.
Donc qui garde toujours son visage centré en plein écran. Donc ouais, c'est un plus qui est toujours sympa à avoir. C'est étonnamment efficace. Moi, ça m'a surpris en faisant le test. Enfin, à chaque fois qu'on s'en sert, je m'en sers pas souvent en fait. Je fais pas souvent de visio. Mais à chaque fois que je m'en sers, je me dis ah ouais, c'est vraiment bien fait quoi. C'est très efficace. Mais c'est vrai que pour mon utilisation, c'est pas forcément pertinent, étant donné que la plupart de mes visios, en fait, je les fais assis devant la tablette.
Ouais.
Et donc, du coup, ça apporte pas spécialement grand chose. J'imagine qu'il y a des contextes où c'est vraiment très utile, mais pour le mien, personnellement, pas plus que ça. Ouais. Et je trouve aussi que ça a un effet un peu bizarre, c'est que ça va vite. En fait, c'est très très fluide. Et du coup, ça donne le tournis, mais ça donne une sensation un peu bizarre en fait quand ça commence à dézoomer un peu partout quand on teste. Ouais.
Pour les correspondants aussi, ça fait un peu bizarre parfois. Stéphane, cadre centré, est-ce que c'est quelque chose qui manque sur l'iPhone ?
Sur l'iPhone, je pense pas vraiment, non. Puisque c'est l'iPhone, tu le tiens toujours dans ta main et tu centres le cadre avec ta main, j'ai envie de dire.
Ouais.
Non, éventuellement, ce qui pourrait manquer sur l'iPhone, c'est une caméra avant ultra grand angle, en tout cas un peu plus avec un champ de vision un peu plus large. pour faire des selfies de groupe, des groofies, je crois que c'était le nom donné, par Huawei à cette innovation. C'est parce qu'il y a d'autres téléphones qui le font, ça. Ça pourrait être utile, mais cadre centré sur iPhone, ça me semble pas vraiment pertinent.
Ouais. Sinon, dans cette iPad Air, il y a la 5G, enfin dans sa version cellulaire, évidemment. J'ai envie de dire que sur la tablette, c'est aussi utile que la 5G, c'est-à-dire pas beaucoup en ce moment, Félix, mais peut-être que ça va changer.
Oui, c'est sûr qu'actuellement, c'est pas la grosse nouveauté, étant donné qu'il y a encore pas beaucoup de monde qui a des forfaits 5G. D'ailleurs, je crois que chez MacG, il y a personne qui a de forfait 5G. On attend tous que Soch s'y mette.
En fait, on a un forfait 5G, une carte SIM 5G qu'on se passe entre nous quand il faut faire les tests.
Voilà, ouais.
C'est vrai.
Après, non, sinon, individuellement, non, personne n'a de forfait 5G. Mais bon, après, c'est sûr que ça reste... Enfin, c'est cool qu'il l'ait mis, ça reste rassurant aussi pour l'avenir. Ça, quand on retrouvera cet iPad au fond du tiroir dans 5-10 ans, on se dira, ouais, tiens, ça marche avec la 5G. Mm-hmm. Le vrai problème, en fait, c'est que l'option est toujours trop chère, je trouve. Elle est facturée quand même 170€.
Ouais.
Donc, comparé au partage de connexion avec un iPhone qui est gratuit, c'est sûr qu'il faut vraiment en avoir une utilité, quoi.
Au niveau de l'autonomie, ça donne quoi? On est toujours dans la dizaine d'heures à peu près. C'est peut-être un petit peu décevant après avoir vu le MacBook Air M1 qui peut tenir 2 ou 3 jours sans trop forcer.
Ouais, c'est vrai qu'on reste sur une journée, quoi. En gros, pas une grosse journée, mais voilà, donc ça sera correct pour des étudiants en cours qui font un usage assez light de leur tablette, de la prise de notes ou du surf, mais après, ouais, c'est vrai que dès qu'on commence un peu à lancer des jeux, des applications pro, là, ouais, la batterie a tendance à fondre. Mais oui, c'est vrai que c'est décevant aussi, comparé à, j'ai un MacBook Air M1 chez moi, et c'est vrai que, ouais, il va tenir 2-3 jours facilement. Ouais. On oublie presque même qu'il faut le recharger, des fois, et là, par contre, sur l'iPad, ouais, ça arrive plus souvent de se retrouver face au petit pop-up qui indique qu'on va passer en mode économie d'énergie, ouais.
Finalement, Stéphane, cet iPad Air, à qui ça s'adresse? Quel est le public? Et ce qui revient, bah, c'est la question du prix, finalement, comme tu disais tout à l'heure.
À qui ça s'adresse, c'était... En fait, c'est une question adressée par un YouTuber à une responsable d'Apple.
Ouais.
C'est ce qui se fait souvent après les présentations de produits, à les cadres d'Apple qui donnent des interviews à gauche, à droite. Pas trop à MacG, mais un peu ailleurs. et en fait, donc j'avais regardé ses réponses. Dans l'idée de faire un article, et puis en fait j'ai pas fait d'article parce que les réponses étaient ultra convenues. Mais en même temps elle avait raison, c'est-à-dire que l'iPad Air il s'adresse un peu à tout le monde, aux étudiants, aux créatifs, mais aussi tout simplement à monsieur madame tout le monde qui veut avoir un iPad confortable. C'est-à-dire tu cherches un iPad disons plus confortable que l'iPad d'entrée de gamme.
Ouais.
Mais tu n'es pas prêt non plus à mettre presque 1000€ dans un iPad Pro parce que t'as pas besoin du ProMotion ou du LiDAR avec l'appareil photo. C'est vraiment cet iPad-là, c'est l'iPad confortable. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que cet iPad-là aussi devient de plus en plus cher. Je pense que ça peut éloigner une partie du public aussi.
Ouais.
Qui va se rabattre tout simplement sur l'iPad d'entrée de gamme, qui est très bien lui aussi, mais c'est vrai qu'il est moins moderne.
Ouais. Et qui est vraiment moins cher pour le coup.
Et qui est vraiment moins cher, il y a une vraie différence de prix entre les deux. Ouais.
Alors, on a pas mal parlé de l'iPad Air, mais il est temps de s'attaquer maintenant à l'iPhone SE, troisième génération du smartphone d'entrée de gamme. Enfin, entrée de gamme, c'est vite dit, parce que son prix dépasse quand même les 500€. Est-ce que ça les vaut globalement, Stéphane?
Pas trop. Non, je trouve que c'est, voilà, comme je l'ai dit en introduction, c'est dommage qu'on ait toujours le même vieux design. Ouais. C'est pas seulement une question esthétique, c'est vraiment c'est aussi une question d'expérience utilisateur. Parce qu'avec l'iPhone X, Apple a réussi à renouveler un peu l'expérience de l'iPhone avec ses gestes tactiles. Et qui apporte vraiment des choses en plus. Parce que en testant l'iPhone SE, j'ai redécouvert que, par exemple, si tu touches, tu peux pas allumer l'écran en le touchant simplement.
Oui.
Alors, si tu lèves l'iPhone SE vers toi, il s'allume, mais en touchant l'écran, ça marche pas. Il y a aussi le geste très pratique du swipe en bas de l'écran pour passer d'une application à l'autre. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible sur iPhone SE. C'est plein de petits trucs comme ça qui font faire des retours en arrière. Alors évidemment, l'iPhone SE, ça s'adresse pas non plus à quelqu'un qui a déjà un iPhone 11 ou un iPhone, un iPhone 12 ou encore plus récent, mais c'est dommage pour les personnes qui ont un iPhone 7 ou 8, je trouve, de passer à l'iPhone SE qui va leur apporter des avantages indéniables. Il y a la photo, par exemple. Oui. Mais c'est pas non plus... disons qu'Apple fait mieux pour pas beaucoup plus cher. C'est ça le problème aussi de l'iPhone SE, c'est qu'il est vendu 529 €. C'est 30 €, c'est 40 € de plus que le précédent modèle, précédente génération. Et en fait, pour seulement quelques dizaines d'euros de plus, tu as l'iPhone 11 qui a une batterie infiniment meilleure, qui a deux appareils photo, qui a un grand écran. Donc le problème de l'iPhone SE nouvelle génération, c'est son prix qui est trop élevé à mon avis.
Ouais, c'est plus un smartphone pour les opérateurs finalement, parce que c'est eux qui vont faire baisser les prix avec des subventions et des promotions en fait.
Oui, c'est ça, c'est l'iPhone que tu vas trouver à 1 € avec un forfait subventionné. Mais même dans cette optique, en fait, bon, c'est dommage que Apple continue toujours à nous resservir le même design, alors que, et c'est la seule à faire ça, hein. C'est-à-dire que Samsung ferait un téléphone comme ça en 2022, tout le monde dirait, mais c'est pas possible, c'est un scandale. Et là, en fait, comme c'est Apple, il y a toujours quand même l'écosystème Apple qui est derrière. Donc, tu te dis, bon, bah, ok, il est pas très joli, mais c'est vrai que si tu veux avoir Apple Pay, si tu veux avoir iCloud, si tu veux avoir tous les services d'Apple que tu aimes utiliser, c'est le point d'entrée le moins cher en neuf. Ouais.
Alors, niveau design, rien n'a changé. Par contre, à l'intérieur, c'est quand même une puce A15 dans le moteur. Ça carbure sec et ça carbure même beaucoup mieux que sur n'importe quel autre smartphone Android.
Oui, ça c'est un avantage de l'iPhone SE par rapport aux autres téléphone, même les plus chers du côté d'Android. Ouais. C'est donc son processeur A15 de dernière génération, comme les iPhone 13. Les performances sont ébouriffantes. Hein. On peut faire tourner tous les jeux avec les graphismes poussés au maximum. Ouais. Mais est-ce que c'est sur un iPhone comme ça que tu vas vraiment profiter des jeux à fond? Pas tellement, parce que t'as un petit écran de 4,7 pouces. Tu en profites mieux des jeux ou même des photos ou même des vidéos sur un iPhone mini qui a un écran plus grand ou un autre iPhone qui a un écran plus grand aussi. Mais l'avantage de la puce A15 évidemment, c'est que ça va, tu sais que l'iPhone SE va durer des années, il sera mis à jour pendant 5-6 ans peut-être plus.
Félix, cet iPhone SE, quel effet ça t'a fait de revoir le bon vieux bouton Touch ID? Parce que je crois que malgré ton jeune âge, tu as commencé avec un iPhone 5 et puis tu es passé directement sur un iPhone XS, donc avec Face ID. Du coup, pas de souci pour toi avec l'iPad Air et son bouton Touch ID?
Non, en fait, moi j'ai eu un iPhone 6S aussi entre les deux. Je passais de l'iPhone 5 au 6S et ensuite au XS. Donc j'ai quand même connu le bouton de Touch ID que je trouvais vraiment super efficace à l'époque sur téléphone. C'est vrai que c'était vraiment un truc. Enfin, je me souviens être vraiment impressionné du fait qu'on avait presque juste à effleurer son doigt pour que ça déverrouille le téléphone ultra rapidement. Donc sur tablette, c'est quand même un peu moins pratique. C'est vrai que l'emplacement du bouton, en fait, il n'y a pas le même effet. Sur le téléphone, le doigt venait reposer naturellement sur le bouton. Ici, c'est pas le cas. Donc ça fait quand même un peu un changement.
Oui, parce que l'iPad Air, Touch ID est sur le bouton d'allumage.
C'est ça, c'est sur le bouton en haut. En plus, c'est un petit peu perturbant, j'ai trouvé au début. C'est vrai qu'on a tendance à essayer de cliquer pour déverrouiller. En fait, ça va pour déverrouiller l'iPad et ça va le verrouiller. C'est vrai que c'est un petit peu... Enfin, faut s'y faire, quoi. Mais bon, ça reste quand même efficace. Une option, ça marche quand même 9 fois sur 10. C'est assez fiable, tout ça. Après, je peux le comparer avec Face ID que j'ai sur mon iPad Pro. Et en fait, je suis un peu partagé parce que je trouve que Face ID n'est pas forcément mieux, dans le sens où il y a quand même beaucoup de scénarios dans lesquels Face ID ne va pas marcher. Ouais. Par exemple, quand on a la tablette qui est à plat sur une, enfin une grosse tablette de 13 pouces qui est à plat sur une table, il va falloir un peu pencher sa tête pour déverrouiller son code, tout ça. Donc en fait, le mieux, moi je pense, ça serait d'avoir les deux, mais ça serait forcément à tarif Apple et je pense pas que ça arrive. Ouais.
Et pour en revenir à Touch ID sur iPhone SE, c'était le bouton Touch ID à l'époque de l'iPhone SE 2, donc en 2020, c'était, vous pouvez considérer ça comme un avantage parce que à cette époque, Face ID fonctionnait pas encore avec les masques.
Ouais.
Maintenant, c'est plus le cas. Depuis la dernière mise à jour d'iOS 15, si on a un iPhone 12 ou 13, on peut utiliser Face ID avec un masque. Donc, c'est un avantage, un petit avantage que perd l'iPhone SE.
Mm-hmm. Alors, un point très important que je voulais évoquer, dont tu as un petit peu parlé, Stéphane, c'est l'appareil photo. Est-ce que l'iPhone SE est un bon appareil photo finalement?
Alors, oui. C'est plutôt un bon appareil photo. Disons que ces photos sont à peu près similaires à celles prises avec un iPhone 12, 13.
Ouais.
J'ai comparé avec un iPhone 7 et il y a clairement une amélioration significative entre les deux. Tu vois que les photos de l'iPhone SE sont beaucoup plus colorées, beaucoup mieux exposées.
Ouais.
La nuit aussi, c'est mieux.
Ouais.
Donc là, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a un mais, c'est que tu as un seul capteur, un seul objectif. Donc c'est un appareil photo qui est beaucoup moins polyvalent que celui qu'on trouve dans l'iPhone 11 ou les iPhone mini. Il n'y a pas de d'objectif ultra grand angle et il n'y a pas non plus de bonne nuit.
Ah oui.
Ce qui est dommage parce que on a les styles photographiques. Ça, c'est une nouveauté des iPhone 13. Mais bon, je trouve ça assez anecdotique par rapport au mode nuit qui, lui, rend vraiment service quand il n'y a pas beaucoup de lumière.
D'ailleurs, tiens, en parlant de photos, je fais une parenthèse avec toi, Félix. S'il manque un truc à l'iPad Air, c'est le flash. Est-ce que tu crois?
Oui. Bah, en effet, c'est vrai qu'il n'y a pas de flash sur cet iPad Air. Donc, pourtant, ouais. Il est présent sur le dernier iPad mini. Donc c'est assez surprenant qu'il ne l'ait pas mis. Bon, après, sur un iPad, on ne va pas se mentir, on sert quand même assez rarement du flash, parce qu'on prend quasiment jamais de photos. Je pense que j'ai quasiment jamais pris de vraies photos avec mon iPad. Mais bon, c'est quand même une option qui reste pratique pour scanner des documents, ou même comme lampe torche, des fois, c'est vrai que ça peut dépanner, quoi.
On va fermer cette petite parenthèse et on revient à l'iPhone SE avec finalement ce qui est l'autre grosse nouveauté de cette nouvelle gamme, c'est le support de la 5G. Là encore, est-ce que c'est pas trop tôt sur cette gamme, on va dire budget? Est-ce que c'est bien utile avec un écran qui permet de toute façon pas vraiment de bien profiter des contenus en streaming, Stéphane?
On va pas s'en plaindre, ça fait partie comme la puce A15 en fait, c'est un équipement qui paraît démesuré mais qui va permettre à cet iPhone de rester viable pendant des années et des années. Mais c'est ce qui fait que l'iPhone SE est déséquilibré, c'est que d'un côté tu as du matériel, des composants qui sont au top du top, A15, 5G, et puis de l'autre, en fait tout ça il s'est mis dans une deux chevaux qui te permet pas de pousser le champignon au maximum quoi.
Ouais.
Donc c'est ça, c'est le problème de l'iPhone SE, c'est qu'il est vraiment déséquilibré.
Ouais. Apple annonce une plus grande autonomie, est-ce que ça s'est confirmé dans tes tests?
Oui, c'était le gros problème d'ailleurs de la précédente génération.
Ouais.
C'était une autonomie très très limitée. Là, ça s'est amélioré. Je crois qu'Apple parle de 2 heures ou 3 heures en plus, c'est à peu près ce que j'ai constaté. Disons que pour un usage léger, et c'est ce que feront sûrement la plupart des clients de l'iPhone SE, ça permet de... Tu as une journée d'autonomie, à peu près. C'est équivalent à l'iPhone 13 mini. Donc c'est convenable, c'est correct.
Qui faisait mieux que l'iPhone 12 mini.
C'est ça, ouais. Mieux que l'iPhone 12 mini, oui.
Ouais.
C'est correct, mais c'est loin des standards actuels comme un iPhone 13 fait beaucoup mieux. Et on en revient toujours au même problème du design, parce que si Apple avait agrandi un peu cet iPhone SE, on aurait une batterie un peu plus grande.
Eh oui. Alors, pour finir, vous avez probablement compris qu'on n'était pas forcément fan du du dernier iPhone SE. Le dernier iPad Air, bon, ça va encore, mais c'est vrai aussi qu'on voit passer toutes les nouveautés d'Apple entre nos mains et qu'on est peut-être moins emballé par de simples rafraîchissements de gamme. Mais pour autant, est-ce que ce sont de mauvais produits, Félix ?
Non, non, pas du tout. L'iPad Air, ça reste quand même un super iPad. Donc le design reste top. C'est une machine qui est surpuissante du coup avec la puce M1. Ouais. L'écran est dingue, même si on n'a pas ProMotion, ça reste quand même vraiment un écran très très cool. Après, le problème, c'est que oui, il n'y a pas eu de grosse surprise sur cet iPad Air, mais étant donné qu'on a eu un gros relooking en 2020, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'il réinvente tout ça, quoi.
Stéphane, est-ce que l'iPad Air et l'iPhone SE sont de mauvais produits ou des produits peut-être mal adaptés à la demande ? Parce que d'après des rumeurs, Apple aurait réduit la production de l'iPhone SE, justement.
Non, c'est pas des mauvais produits. L'iPad Air, je pense même que c'est un excellent produit. C'est peut-être le meilleur iPad au niveau rapport qualité-prix, même si son prix a encore augmenté. Ouais. Je pense que c'est lui qu'on peut conseiller à tous ceux qui veulent se faire plaisir sans non plus dépenser des milliers et des cents. Concernant l'iPhone SE, c'est plus contrasté, mais je dirais pas que c'est un mauvais produit. D'autant que juste avant, en fait, j'avais testé le Huawei P50 Pro, ouais. qui était lui un mauvais produit parce que sans les services Google, c'était très compliqué. Il y avait beaucoup de limitations et c'était vraiment très 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 handicapant. Là, c'est pas le cas de l'iPhone SE. C'est pas qu'il est mauvais, mais c'est qu'il est assez décevant en fait. Et vraiment, si vous cherchez un iPhone autour des 500€, ben c'est pas le meilleur choix que vous pouvez faire, je pense. C'est mieux de regarder un iPhone 11 en refurb ou en reconditionné ou en occasion, ouais. Ou même en neuf. Il y a des promotions qui font qu'il est pas très loin des 500€. Il faudrait que le prix de l'iPhone SE baisse significativement pour qu'il devienne plus intéressant en fait. C'est ça son problème.
Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Félix, merci à toi pour ta première participation à cet épisode de Kernel Panique. Il y en aura d'autres. Salut Félix.
Un plaisir, salut.
Salut Stéphane, à très vite sur Mac Génération.
Salut Mickaël, salut à tous.
Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de futures aventures.